Donc, Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn, le camarade de Tom Sawyer, 1884. Je vous ai lu le début des aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, écrit en 1884. Je vous ai lu Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. Je vous ai lu Les aventures de Huckleberry Finn, le camarade de Tom Sawyer. Pouf! Je vous ai lu Les aventures de Huckleberry Finn, le camarade de Tom Sawyer, paru aux États-Unis en 1884 et paru en France aux éditions Tristram en 2008. Notice. Quiconque tente de trouver une motive. Toup! Notice. Quiconque tente de trouver une motivation à ce récit sera poursuivi. Quiconque tente d'y trouver une morale sera banni. Quiconque tente d'y trouver une intrigue sera fusillé. Par ordre de l'auteur, par l'intermédiaire de GG, chef du service du matériel. Chapitre 1. Vous savez rien de moi si vous n'avez pas lu un livre qui s'appelle Les aventures de Tom Sawyer. Mais ça ne mange pas de pain. Ce livre, c'est Monsieur Mark Twain qui l'a fait, et il a dit la vérité vraie en grande partie. Certaines choses, il les a exagérées. Mais en grande partie, il a dit la vérité. Ça fait rien. J'ai jamais connu quelqu'un qui n'a pas menti une fois ou une autre, sauf Tante Polly, ou la veuve, ou peut-être Marie. Tante Polly, elle, c'est la Tante Polly de Tom, et Marie et la veuve Douglas, on en parle dans ce livre, qui dans l'ensemble reflète la vérité, avec quelques exagérations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voici comment le livre finit. Tom et moi, on a trouvé l'argent que les voleurs avaient caché dans la grotte et on est devenus riches. On avait 6 000 $ chacun en or. Ça faisait un sacré tas d'argent quand on l'a empilé. Eh bien, le juge Thatcher, il l'a pris et l'a investi à intérêt. Et ça nous rapportait 1 $ par jour chacun, toute l'année. Et personne ne saurait quoi faire de tout ça. La veuve Douglas, elle m'a pris chez elle comme son fils et elle se disait qu'elle allait me civiliser. Mais c'était plutôt dur de vivre dans la maison tout le temps, vu que la veuve avait une manière de vivre horriblement régulière et convenable. Et donc, quand j'en ai eu pour mon compte, je me suis tirée. J'ai remis mes vieux haillons et j'ai retrouvé ma barrique de sucre. Et j'étais de nouveau libre et satisfait. Mais Tom Sawyer, il est parti me chercher et il a dit qu'il allait former une bande de voleurs et que je pourrais en faire partie si j'acceptais de retourner chez la veuve et d'être respectable. Alors j'y suis retournée. La veuve a pleuré en me voyant et a dit que j'étais un pauvre agneau perdu. Et elle m'a aussi donné plein d'autres noms, mais sans aucune mauvaise intention. Elle m'a fait enfiler de nouveau tous ses habits neufs et j'arrêtais pas de transpirer. Et puis je me sentais tout à l'étroit. Eh bien alors, la vieille routine s'est remise en marche. La veuve faisait sonner la cloche pour le souper et il fallait être là à temps. Quand on se mettait à table, on ne pouvait pas commencer tout de suite à manger. Il fallait attendre que la veuve pique un peu du menton vers le bas et marmonne un peu par-dessus les victailles. Et pourtant, il n'y avait rien vraiment à redire là-dessus, c'est-à-dire rien, sinon que chaque chose était cuite séparément. Dans une marmite de reste, c'est pas pareil. Les choses se mélangent et le jus passe des unes aux autres et le tout est bien meilleur. Après le souper, elle a sorti son livre et m'a appris des choses sur Moïse et les roseaux. Et j'étais impatient de tout savoir sur lui. Mais au bout d'un moment, elle a lâché que Moïse était mort. Depuis vraiment très longtemps. Alors je me suis plus intéressée à lui, parce que je me fiche pas mal des morts. J'ai pas tardé à vouloir fumer, et j'ai demandé à la veuve de m'y autoriser. Mais elle voulait pas. Elle a dit que c'était une mauvaise habitude et que c'était malpropre, et que je devais essayer de plus le faire. C'est comme ça avec certaines personnes. Elles critiquent quelque chose alors qu'elles en savent rien du tout. Elle était là à s'inquiéter de Moïse, qui n'était pas de sa famille, ni d'aucune utilité pour qui que ce soit, puisqu'il avait disparu, vous comprenez? Et pourtant, elle trouvait plein à me critiquer parce que je faisais quelque chose qui était plutôt agréable. Et elle prisait aussi, naturellement, ça on pouvait le faire, puisque elle-même le faisait. Sa sœur, Miss Watson, une vieille fille plutôt maigre, avec des lunettes sur le nez, venait d'arriver pour vivre avec elle. Et il a fallu qu'elle m'embête avec un livre d'orthographe. Elle m'a mis à l'ouvrage, pas trop dur, pendant environ une heure, et puis la veuve l'a un peu calmée. J'aurais pas pu en supporter plus. Et ensuite, pendant une heure, ça a été ennuyeux à mourir et j'arrêtais pas de gigoter. Miss Watson disait « Ne mets pas tes pieds là, Huckleberry. » Et « Ne te recroqueville pas comme ça, Huckleberry. Tiens-toi droit. » Et pas bien longtemps après, voilà qu'elle disait « Ne baille pas comme ça. Ne t'étire pas, Huckleberry. Pourquoi n'essaies-tu pas de bien te tenir ?» Ensuite, elle m'a tout expliqué sur le mauvais endroit et j'ai dit que j'aurais bien aimé y être. Elle est devenue folle. Alors, toup ! Elle est devenue folle, alors. Mais je pensais pas à mal. Tout ce que je voulais, c'était aller quelque part. Tout ce que je voulais, c'était faire quelque chose, n'importe quoi. Elle m'a dit que c'était mal de dire ce que j'avais dit. A dit qu'elle-même ne le dirait pas pour tout l'or du monde. Elle allait vivre de sorte qu'elle puisse aller au bon endroit. Eh bien, je voyais pas l'avantage d'aller là où elle irait, et j'ai décidé alors que c'était pas la peine d'essayer. Mais je... Toup ! Toup ! Elle m'a dit que c'était mal de dire ce que j'avais dit, a dit qu'elle-même ne le dirait pas pour tout l'or du monde. Elle allait vivre de sorte qu'elle puisse aller au bon endroit. Eh bien, je voyais pas l'avantage d'aller là où elle irait, et j'ai décidé alors que c'était pas la peine d'essayer. Mais je l'ai jamais dit, parce que ça aurait créé plein de problèmes et que ça m'aurait rien rapporté. À présent, elle avait démarré, et elle a continué à me dire tout sur le bon endroit. Elle m'a dit que les gens là-bas y faisaient rien d'autre toute la journée qu'à se promener avec une harpe en chantant, éternellement et à jamais. J'en ai pas vraiment pensé du bien, mais je l'ai pas dit. Je lui ai demandé si à son avis Tom Sawyer s'y rendrait et elle a dit « Loin s'en faut ». J'en étais plutôt content parce que je voulais que lui et moi on soit ensemble. Miss Watson, elle arrêtait pas de me lancer des coups de bec et ça devenait ennuyeux et je me sentais seule. Au bout d'un moment, on a été chercher les nègres et on a dit les prières et puis tout le monde est allé se coucher. Je suis montée dans ma chambre avec un morceau de chandelle que j'ai posé sur la table. Puis je me suis assise sur une chaise près de la fenêtre et j'essayais de penser à quelque chose de réjouissant. Mais j'y arrivais pas. Je me sentais tellement seule que j'aurais voulu être mort. Les étoiles brillaient et les feuilles bruissaient dans les bois et c'en était lugubre. Et j'ai entendu une chouette, assez loin. Elle ouhoulait parce que quelqu'un était mort et puis un engoulevent et un chien qui pleurait parce que quelqu'un allait mourir. Et le vent cherchait à me chuchoter quelque chose, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était et ainsi j'étais tout en nage et glacée. Et puis, tout là-bas dans les bois, j'ai entendu ce genre de bruit que fait un spectre quand il veut expliquer quelque chose qu'il a en tête et qu'il ne peut pas se faire comprendre. Et il n'arrive pas alors à rester tranquillement dans sa tombe et il est obligé de sortir comme ça tous les soirs pour se plaindre. Je me suis sentie tellement abattue et effrayée que j'aurais aimé un peu de compagnie. Et bientôt, une araignée est venue grimper sur mon épaule. Je l'ai envoyée promener avec une chiquenaude, elle est tombée sur la chandelle. Et avant que je puisse faire un geste, elle était toute ratatinée. J'avais besoin de personne pour me dire que c'était vraiment un signe terrifiant et que ça me vaudrait de la malchance. Et j'ai eu alors très peur et je tremblais et j'avais les grelots. Je me suis levée et j'ai tourné en rond 3 fois sur place et j'ai fait le signe de croix chaque fois. Et puis j'ai attaché une mèche de mes cheveux avec un fil pour écarter les sorcières. Mais j'avais pas confiance. On a fait ça, toup! On fait ça quand on a perdu un fer à cheval qu'on a trouvé et qu'on voulait clouer au-dessus de la porte. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'était une façon de conjurer le mauvais sort quand on a tué une araignée. Je me suis rassis, tremblant comme une feuille, et j'ai sorti ma pipe pour fumer, car la maison était maintenant aussi silencieuse que la mort, et comme ça la veuve en saurait rien. Eh bien, au bout d'un long moment, j'ai entendu l'horloge du village faire boum, 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 12 coups. Et de nouveau le silence, plus silencieux que jamais. Bientôt, j'ai entendu une brindille craquer, là en bas, dans le noir parmi les arbres. Quelque chose remuait. Je suis restée assise, immobile, et j'ai écouté. Tout de suite, j'ai juste entendu comme un miaou, miaou en dessous. Ça, c'était bien. Et voilà que je fais pareil. Miaou, miaou, aussi doucement que possible. Et ensuite, j'ai soufflé la chandelle et je suis allée sur le toit de la pentille en passant par la fenêtre. Et puis je me suis laissée glisser jusqu'à terre et je me suis enfoncée sous les arbres. Et voilà, Tipa, que Tom était là, qui m'attendait. Chapitre 2. On a pris un sentier dans les arbres sur la pointe des pieds, jusqu'au fond du jardin de la veuve, plié en deux pour que nos têtes s'accrochent pas aux arbres, aux branches. On a pris un sentier dans les arbres sur la pointe des pieds, jusqu'au fond du jardin de la veuve, plié en deux pour que nos têtes s'accrochent pas aux branches. Quand on est passé près de la cuisine, j'ai trébuché sur une racine et dégringolé avec fracas. On s'est accroupi et on est resté sans bouger. Le grand nègre de Miss Watson, qui s'appelle Jim, il était assis à la porte de la cuisine. On le voyait plutôt bien parce qu'il y avait une lumière derrière lui. Il s'est levé et a tendu le cou près d'une minute, tendant l'oreille. Puis il a dit « Qui est là ?» Il a tendu l'oreille un peu plus et voilà qu'il s'approche sur la pointe des pieds et se met juste entre nous deux. On aurait pu le toucher presque. Eh bien, sans doute qu'il y a eu des minutes et des minutes sans un bruit et nous tous là, tout près les uns des autres. Quelque part sur ma cheville, ça s'est mis à me démanger. Mais j'osais pas gratter. Et puis mon oreille a commencé à me démanger, et ensuite mon dos, juste entre les épaules. J'ai cru que j'allais mourir si je me grattais pas. Eh bien, j'ai remarqué ce truc plein de fois depuis. Quand on est avec des gens de qualité, ou un enterrement, ou qu'on essaye de dormir quand on n'a pas sommeil, quand on est n'importe où, là, où ça se fait pas de se gratter, quand on est avec des gens de qualité, ou à un enterrement, ou qu'on essaye de dormir quand on n'a pas sommeil, quand on est n'importe où, là où ça se fait pas de se gratter, eh bien, ça vous démange partout, dans plus de 1000 endroits. Bientôt, Jim il dit « Hé, c'est qui vous? Où vous êtes? Qu'on me change en chat si j'ai pas entendu quelque chose. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais ma toupe. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Faire. Toupe. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais m'asseoir ici et écouter jusqu'à ce que j'entende encore. Eh bien, toup ! Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais m'asseoir ici et écouter jusqu'à ce que je l'entends encore. Eh bien, toup ! Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais m'asseoir ici et écouter jusqu'à ce que je l'entends encore. Et il s'est assis par terre, entre moi et Tom. Il s'est appuyé contre un arbre et a étendu les jambes jusqu'à ce que... Il s'est appuyé contre un arbre et a étendu les jambes jusqu'à ce qu'une d'elles touche presque une des miennes. Mon nez a commencé à me démanger. Il démangeait jusqu'à ce que les larmes me coulent des yeux. Mais j'osais pas me gratter. Et puis ça s'est mis à me démanger dedans. Ensuite, ça m'a démangé en dessous. Je ne savais plus comment j'allais rester assis sans bouger. Cette misérabilité a continué au moins 6 ou 7 minutes. Mais ça paraissait sacrément plus long. Ça me démangeait maintenant à au moins 11 endroits différents. Je me disais que je ne pourrais pas tenir 1 minute de plus. Mais j'ai serré les dents très fort et je me suis préparée à essayer. À ce moment-là, Jim a commencé à respirer bruyamment. Et ensuite, il a commencé à ronfler. Et alors, j'étais de nouveau plutôt tranquille. Tom, il m'a fait un signe, une espèce de petit bruit avec sa bouche, et on a détalé à 4 pattes. Quand on a été à 3 mètres de là, Tom m'a chuchoté qu'il voulait attacher Jim à l'arbre pour s'amuser. Mais j'ai dit non, il pourrait se réveiller et faire du boucan, et tout le monde verrait alors que j'étais pas à la maison. Alors Tom, il a dit qu'on n'avait pas assez de chandelles et qu'il allait se glisser dans la cuisine pour en prendre d'autres. Je ne voulais pas qu'il essaye. J'ai dit que Jim pouvait se réveiller et arriver. Mais Tom voulait risquer le coup. On s'est alors faufilé à l'intérieur et on a pris 3 chandelles. Et Tom a posé 500 sur la table pour les payer. Ensuite, on est sortis et j'aurais vraiment voulu qu'on parte. Mais rien n'a pu empêcher Tom de ramper jusqu'à Jim. À 4 pattes pour lui jouer un tour. J'ai attendu et ça m'a paru très long. Tout était tellement silencieux et solitaire. Dès que Tom est revenu, on a foncé dans le sentier, contourné la barrière du jardin et on est enfin parvenu au sommet très raide de la colline de l'autre côté de la maison. Tom a dit qu'il avait enlevé le chapeau de Jim de sa tête et qu'il l'avait accroché à une branche juste au-dessus de lui. Et Jim avait bougé un peu, mais s'était pas réveillé. Plus tard, Jim a dit que les sorcières l'avaient ensorcelé et l'avaient mis en transe. Et l'avait chevauché d'un bout à l'autre de l'état. Et puis elle l'avait ramené sous les arbres et avait accroché son chapeau à une branche pour montrer qui avait fait ça. Et la fois d'après qu'il l'a raconté, il a dit qu'elle l'avait chevauché jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et après ça, chaque fois qu'il racontait ça, il enjolivait encore un peu plus, jusqu'à ce que, pour finir, il finisse par raconter qu'elle l'avait chevauché dans le monde entier et qu'elle l'avait épuisé presque à mort et que son dos, il n'était plus qu'écorchure. Jim, il était monstrueusement fier de tout ça. Et à tel point que c'est tout juste s'il acceptait encore quelquefois de se mêler aux autres nègres. Les nègres venaient de kilomètres à la ronde pour écouter Jim raconter l'histoire et il était plus recherché que n'importe quel autre nègre de ce pays. Des nègres venus de loin restaient là, bouche bée, rien que pour le regarder comme s'il était une merveille. Les nègres, ils parlent toujours des sorcières dans le noir devant le feu de la cuisine. Mais chaque fois qu'il y en avait un qui prétendait tout savoir sur ces choses-là, Jim, il arrivait et il déclarait « Qu'est-ce que tu sais des sorcières ?» Et ce nègre, il avait plus qu'à se taire et à rester dans son coin. Jim avait tout le temps cette pièce de 500 autour du cou, au bout d'une ficelle, et il disait que le diable la lui avait donnée de sa propre main et lui avait dit qu'il pouvait guérir n'importe qui avec ça et appeler les sorcières quand il le voulait, simplement en disant quelque chose. Mais il n'a jamais raconté ce qu'il disait à la pièce. Les nègres venaient de toute la région et donnaient à Jim tout ce qu'ils avaient, juste pour un coup d'œil sur cette pièce de 500. Mais ils ne voulaient pas la toucher, parce que le diable l'avait touchée de sa main. Jim, il était plus bon à rien, comme domestique, parce que... Toup ! Jim, il était plus bon à rien, comme domestique, parce qu'il se sentait plus depuis qu'il avait vu le diable et avait été chevauché par des sorcières.